CQFD sur la première.
L'autisme au féminin, maintenant, dans CQFD, les témoignages, livres et expositions se multiplient pour essayer de le rendre plus visible, cet autisme, parce que les filles passent souvent sous le radar du diagnostic, Alexandra Richard.
Oui, ce chiffre qui est parlant, parmi les personnes diagnostiquées, 3 sur 4 sont des garçons. Pourtant, les filles sont aussi touchées, mais c'est plus difficile de le repérer chez elles. Méconnaissance de l'autisme dans sa version féminine, hyper-adaptation sociale des femmes, les raisons sont multiples, on va le voir, et les conséquences parfois lourdes puisqu'elles sont diagnostiquées en moyenne 5 ans plus tard que les garçons.
Alors pour en parler ce matin, nous avons la chance d'avoir deux invités. Il s'agit d'abord de Diane Clénin. Bonjour.
Bonjour.
Vous amenez avec vous votre témoignage puisque vous avez été récemment diagnostiquée. Et en notre compagnie également, Laetitia Rothenbühler qui est psychologue et pédagogue curative au centre Enikos à Neuchâtel. Laetitia Rothenbühler, pourquoi les outils de diagnostic ne permettent pas d'identifier aussi bien les filles que les garçons? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que les études ont été menées sur des garçons, sur des populations masculines. Donc, les outils
mais pourquoi
ont été...
Alors, pourquoi une habitude comme ça?
C'est un peu ce qui se passe souvent dans la santé.
C'est souvent ça. Et puis, c'est vrai que les premiers psychiatres qui se sont intéressés à l'autisme, ils ont vraiment observé des garçons. Mm-hmm. Et ça a continué un peu comme ça. Et donc, on a hérité d'outils qui mettent vraiment en évidence les caractéristiques qui ont été observées chez les garçons. Et donc, on est un peu pauvre en outils, en instruments, en outils d'observation pour mettre en évidence les caractéristiques féminines.
Et puis, une autre raison, on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi que les filles ont tendance à se suradapter socialement. Vous parlez de la technique du camouflage.
Oui, alors c'est vrai qu'on observe ça beaucoup chez les filles, chez les femmes, c'est qu'elles vont vraiment avoir ce côté de passer inaperçu parce qu'elles vont vraiment vouloir donner une image attendue en fait. Il y a aussi cette réponse un peu aux attentes sociales chez les filles, mm-hmm, qui va être plus forte peut-être, mm-hmm, et puis elles vont vraiment se camoufler et puis masquer leur comportement qui pourrait être plus vite vu si elles masquaient moins.
Elles vont même s'exercer, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, alors on entend souvent ça dans les témoignages de filles, d'adolescentes et puis même d'adultes, c'est qu'elles s'exercent. Donc ça peut être en regardant des séries, en répétant, chez les filles plus petites, ça peut être avec les poupées ou les jeux qu'elles font. Elles vont vraiment s'exercer à refaire des situations sociales pour essayer de trouver comment il faut le dire, comment j'interagis, etc.
Stéphane Delétro.
Mais ça veut dire quoi que selon vous, globalement, il y aurait autant de cas de troubles du spectre autistique chez les filles que chez les garçons?
Alors, on n'a pas de chiffres encore exacts, mais probablement qu'il y a en tout cas plus que ce que vous avez mentionné tout à l'heure, mais on ne sait pas encore exactement quelle est la prévalence chez les filles.
Et la gravité n'est pas forcément la même, hein? Elle s'exprime pas de la même façon.
Oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est en termes de gravité, parce que la gravité, ça fait référence aux conséquences. Et il y a des femmes qui vivent avec des conséquences quand même très pénibles au quotidien. Mais c'est plutôt que les caractéristiques qu'on observe, elles sont moins visibles chez les femmes. Elles sont moins prégnantes. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins grave.
Ça peut avoir un impact aussi, oui, tout à fait.
Dans le quotidien, effectivement.
Diane Clénin, vous avez aussi, vous, développé ces stratégies de camouflage, je crois que vous parlez de prothèses aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Mais autant longtemps que je m'en souvienne, en fait, j'ai consommé beaucoup de livres, de séries qui m'ont permis de faire une base de données. Ce qui me permet, dans n'importe quelle situation sociale, d'aller chercher dans ma base de données pour savoir ce qu'il faut répondre. Mais c'est vrai que si on me propose une situation où j'ai pas de contexte, en fait, je suis incapable de m'en sortir.
Mais c'est compliqué, il faut avoir une bonne mémoire. Alors attention, c'est-à-dire que je vais dans la rue, je croise machin, il me dit ça, j'ai entendu un truc rigolo dans le film, c'est ça que je dois répondre.
Oui, imaginez vivre toute votre vie comme ça, 24 heures sur 24.
J'avais une bonne mémoire.
Ouais, j'ai une bonne mémoire.
Ça prend beaucoup d'énergie.
Ça prend énormément d'énergie. En fait, ça demande une bande passante pour faire une comparaison avec un ordinateur qui est énorme.
Mmh. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire aussi que les filles présentent des troubles moins marqués, moins forts que les garçons?
Oui. Alors, pas dans toutes les situations. Il y a des filles qui ont aussi des troubles très marqués. Mais c'est vrai que globalement, on observe quand même que les caractéristiques sont moins visibles, moins marquées. et plus socialement peut-être adéquate. Par exemple, si on parle des intérêts restreints qui font partie du diagnostic, donc les passions, etc. C'est vrai que chez les filles, chez les femmes, on trouve le yoga, la lecture. Donc, c'est des choses qui socialement sont moins frappantes que... Alors ça, c'est un peu cliché, mais que chez les garçons, les moteurs ou les horaires de train. Enfin, ça passe souvent plus inaperçu chez les filles.
Et du coup, cet autisme qui est plus difficile à repérer chez les filles, les femmes, ça veut dire que le diagnostic, il tombe beaucoup plus tardivement?
Oui. Alors, il tombe en moyenne autour des 20-25 ans chez les filles. Et puis, je crois que les chiffres chez les garçons, c'est autour des 11 ans.
Donc, ça fait tout un chemin qui n'a pas pu être fait jusque-là.
Et c'est souvent un chemin qui a été déjà parcouru, enfin, où elles ont déjà rencontré beaucoup de médecins, elles se sont déjà beaucoup posées de questions. Nous, quand on les rencontre à l'âge adulte, pour le diagnostic, il y a souvent déjà d'autres diagnostics qui ont été posés, de dépression, de troubles anxieux, de troubles à personnalité. Donc elles ont souvent un long chemin déjà de recherche, de questionnement pour arriver finalement à ce diagnostic-là.
Ouais, ce qui était mon cas. Jusqu'à vos diagnostics à 34 ans. Et c'était tellement un lourd sac à dos à porter qu'en fait, quand Laetitia m'a confirmé le diagnostic, j'ai sauté de joie. J'ai dansé dans le bureau.
C'était un soulagement ?
Un énorme soulagement.
Parce qu'avant, vous vous disiez quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis différente ? Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que vous disiez de vous-même, vous, avant ces 34 ans ?
Je me rendais compte que j'étais en décalage, déjà, constant. Que beaucoup de choses me demandaient énormément d'énergie, en fait, pour fonctionner en général. De masquer mes traits autistiques, je me suis rendu compte, je pense en étant toute petite, que c'était une question de survie, en fait, tout simplement, pour pouvoir passer inaperçu. Moi, j'avais toujours le nez dans les bouquins, ce qui arrangeait bien les adultes. Et du coup, quand j'ai su enfin que c'était ça, c'était un véritable soulagement dans le sens où je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui cloche chez moi.
Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement-là ?
De la recherche de diagnostic, ça a été le confinement, principalement. Parce que pendant, en tout cas, une année, j'ai pu poser ce masque. C'est là que je parle de prothèse, justement. J'ai pu poser cette prothèse qui me permettait de fonctionner dans la société en général. Et quand il a fallu la remettre, c'était plus possible du tout. J'ai eu des épisodes sensoriels assez violents. C'est d'abord la synesthésie qui m'a mis sur la piste de l'autisme. L'épuisement avec un côté un peu régressif, comme ça, de plus pouvoir fonctionner en général. Et puis j'ai pris rendez-vous chez Enikos. Il y a pas mal. Il y a eu quelques mois d'attente. Et pendant ces quelques mois d'attente, ça m'a permis de faire énormément de recherches. Et sur moi-même, en fait, de pouvoir regarder ma vie avec d'autres lunettes. Ce qui a permis, en fait, de poser ce diagnostic, en fait, à la fin.
Juste pour expliquer, la synesthésie, en quelques mots.
C'est quand plusieurs sens se mélangent. Par exemple, pour moi, l'odeur du poulet, c'est toujours jaune.
Oui.
Voilà.
Vous avez d'ailleurs un très joli cahier où vous illustrez les gens, le monde, avec beaucoup de couleurs, un peu comme on dessinerait des auras ou quelque chose comme ça. Vous voyez les gens en couleurs aussi ? Vous sentez ces...
Non, alors je ne vois pas des auras ni les gens en couleurs.
Mais le poulet, oui.
Le poulet, l'odeur du poulet, ouais. Ou par exemple, une certaine chanson des Smashing Pumpkins va me faire penser, va me faire sentir une odeur de feu de bois. Ou un nouveau produit dans la maison avec une odeur particulière, je vais avoir l'impression qu'il y a une lumière verte qui n'est pas normale, alors qu'en fait, c'est juste une odeur.
C'est une forme de richesse, en fait.
C'est une forme de richesse, parce que la musique a des couleurs. Je peux composer des chansons avec juste avec ma boîte d'aquarelle, en fait. Par contre, ça peut être aussi handicapant, dans le sens où, quand il y a une grosse lumière, un bruit de marteau-piqueur dans la rue, en fait, je me sens hyper mal, j'ai la nausée, je vois plus rien, je vois tout noir, et puis...
C'est une stimulation très importante.
Et ça va pas du tout, en fait.
Ouais, c'est envahissant, quoi.
C'est hyper envahissant.
Ce côté sensoriel, Laetitia Rottenbühler, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, qui est très très marqué chez les personnes avec un trouble de l'autisme.
Oui, c'est d'ailleurs maintenant un des critères diagnostiques auxquels on doit aussi être attentif. Et c'est vrai que ces difficultés de modulation et de régulation sensorielle, elles sont vraiment très problématiques au quotidien. Mmh.
Juste une petite question aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Pas toutes les personnes qui font de la synesthésie, on se dit, ça y est, ils partent sur de l'autisme. Il faut partir sur un diagnostic d'autisme. Non. Juste pour clarifier les choses.
Absolument. Mmh.
On écoute peut-être un autre témoignage qui a été recueilli par une exposition que vous avez montée récemment à Neuchâtel. C'est le témoignage d'une maman qui a une fille autiste, une ado de 12 ans.
C'est important pour moi de pouvoir dire que grâce à ma fille, j'ai pu apprendre des choses que je pensais jamais connaître un jour. Comme par exemple, c'est vrai que je connais toutes les choses de Harry Potter. Je suis vraiment devenue une professionnelle de Harry Potter quand elle était plus petite. Et puis maintenant, je suis aussi une spécialiste des séries pour adolescentes qu'elle regarde en boucle et que j'ai même pu apprendre à apprécier grâce à son enthousiasme qui est vraiment débordant à ce sujet. C'est vrai que je connais personne d'autre que les personnes sur le spectre de l'autisme qui sont autant enthousiastes. Grâce à ma fille, je sais qu'une immense preuve d'amour, la plus belle des preuves d'amour, ça peut être tout simplement d'être d'accord qu'elle me prenne dans les bras, que j'y fasse un câlin. Je suis une des rares personnes qui a le droit de faire ça. Donc pour moi, c'est extrêmement fort quand elle est d'accord que je fasse ça. Grâce à ma fille, je pense que je suis une meilleure personne, une meilleure maman, parce que maintenant, je sais vraiment que c'est vrai, que c'est pas juste des paroles en l'air, mais qu'on peut vraiment faire de la différence une force et que ça nous permet d'avancer dans la vie, qu'il y a vraiment des côtés positifs à cette différence et que c'est vraiment super important de pouvoir les mettre en avant pour pouvoir surmonter les difficultés et puis pour pouvoir avancer et trouver sa place dans la vie.
Oui, cette relation avec une personne qui a des troubles autistiques, c'est aussi ça, Laetitia Rottenbühler, c'est une découverte, on parlait de richesse avant aussi, c'est un lien très fort qui peut se mettre en place entre une maman et sa fille.
Oui, mais alors bien sûr, mais
c'est quelque chose que vous entendez beaucoup.
Oui, tout à fait, et puis mais comme pour toutes finalement les relations mère-enfant, c'est pas différent. Il y a des adaptations à faire, il y a des choses qu'on doit apprendre. Ce que les gens souvent disent, c'est qu'il faut apprendre à faire autrement. Que ce qui marche avec un enfant, on dit neurotypique, ne fonctionne pas forcément avec un enfant atypique. Donc il faut réinventer un petit peu des codes, des manières de faire. Mm-hmm. Mais ce qui est une richesse incroyable, ça nous pousse vraiment à faire autrement.
La maternité, ça peut être un moment qui est difficile, où il faut un petit peu bricoler d'une certaine façon. Diane Clénin.
Oui, je pense que pour toutes les jeunes mères, c'est le cas. Mmh. Je suis pas sûre que les troubles autistiques, ça change quoi que ce soit. Moi, effectivement, je suis devenue maman presque en même temps que j'ai eu ce diagnostic. Mais c'est vrai que ça m'a juste envie de donner. Pardon, je recommence. Ça m'a juste envie de donner envie de me battre. Pour que, en fait, on ait le droit de vivre juste comme on est, en fait.
Vous parliez avant de ce moment du diagnostic, la danse de joie au moment du résultat. C'était un soulagement. Qu'est-ce qui a changé depuis ce moment-là ?
Pour l'instant, en fait, je suis en train de faire beaucoup d'adaptations dans ma vie pour essayer de mieux vivre avec mes particularités. Moi, j'aime bien la métaphore de dire que je fonctionne sous Mac ou SX, alors que le reste du monde fonctionne sous Windows, et forcément, ça crée des bugs. Donc, il faut créer des stratégies et mettre des choses en place pour un peu pallier à ces bugs-là. Ça passe par des protections auditives, mettre par exemple des lunettes de soleil, dire non à certains événements où il y aura trop de lumière, trop de bruit, trop de monde, trop de stimulation. Mais c'est aussi d'apprendre à vivre avec cette richesse et cette créativité d'avoir un cerveau qui fonctionne autrement. Mmh. Ça, c'est super de pouvoir. Et puis, justement, grâce à l'association Parlons d'autisme et Nikos, qui ont permis justement d'exposer et puis de rendre visible, en fait. C'est juste ce fonctionnement qui est différent.
Mm-hmm. Parce que vous entendez comme ça à l'antenne, on se dit, mais tout va bien. Donc, il faut des spécialistes, voilà, beaucoup de j'imagine, d'entretiens pour pouvoir diagnostiquer. Je vais vous demander un petit exercice d'improvisation, mm-hmm. Là, Diane Clénin, dans cette situation qui est normalement stressante hein, pour les invités, mm-hmm. Pour nous y compris, journalistes, qu'est-ce qui vous frappe ici, par exemple?
Qu'est-ce qui me frappe?
Oui, qu'est-ce qui pour vous, comme femme diagnostiquée autiste, vous semblerait-il plus compliqué maintenant que vous connaissez un peu notre monde, notre façon de...
Dans le studio de la radio ou en général?
Dans cette situation.
Ah, dans cette situation.
Ouais.
Bah,
on improvise total.
Improvisation totale. Ok. Alors moi j'ai une formation de journaliste, donc la radio c'est un truc que je connais quand même un peu, donc ça me permet de pas totalement perdre les pédales.
Oui.
Mais typiquement pour moi c'est vraiment plus facile, par exemple dans un studio comme ça, mm-hmm. parce qu'il y a moins de bruit, mm-hmm. donc il y a moins de distractions, et vous me faites signe quand je dois parler. Donc c'est super.
Ça
donne
des repères.
Une conversation de groupe. Où on n'a pas de micro et on doit pas, on doit se passer la parole. Enfin, c'est affreux. Puis sinon, effectivement, le studio il est insonorisé, donc c'est très calme. Ouais. Là, je suis juste en train d'essayer de pas trop regarder les rayons du soleil. C'est pour ça que je me suis mis dos au soleil
à la fenêtre
pour essayer d'être
concentré, quoi.
Concentré sur vous. Et puis, je fais très attention à faire semblant de vous regarder dans les yeux. Je regarde derrière, mais comme ça, je sais. Enfin voilà, ça fait que j'ai l'air plus ou moins normal.
Vous faites ça très bien. Hein,
ouais, c'est bien, exercice, ouais, c'est bien ça le problème en fait. Et puis sinon il y a juste le bruit de la ventilation qui m'embête beaucoup. Et puis effectivement comme la résonance de ma voix et vu que c'est tout feutré.
Mm-hmm.
La respiration des gens, c'est pas la même chose que l'extérieur, donc ça me demande quand même un petit côté où il faut que je m'adapte.
Donc il y a une espèce d'hypervigilance par rapport à tous les stimuli
le
autour,
partout.
Quoi, c'est ça.
Ouais. C'est incroyable, hein, ouais. Tout ce monde intérieur que nous on ne voit pas, Laetitia Rottenbühler. Ça illustre bien en fait le sujet dont on parle aujourd'hui, hein, cette difficulté à repérer l'autisme chez les femmes.
Oui, effectivement, parce que quand on rencontre Diane comme ça, on voit absolument rien qui nous fait penser à l'autisme. Et puis c'est pour ça que ces diagnostics sont très compliqués. Ça nécessite vraiment beaucoup de recherche. On recherche beaucoup dans l'histoire développementale, dans l'enfance, comment est-ce que c'était. On fait aussi, on appelle à beaucoup de témoignages autour de la personne. Ça suffit pas juste que la personne dise « Ok, moi je me sens ». Donc les proches, les conjoints, les collègues, enfin, on a vraiment un recueil d'informations qui est extrêmement large. Et puis, on met aussi dans les moments d'entretien comme ça, on met aussi la personne dans des situations un peu inconfortables. Ça, c'est pas très sympa de notre part, mais pour voir aussi que si on la laisse pas s'asseoir exactement où elle veut, pour qu'elle puisse contrôler ses stimuli, comment elle va réagir, on fait vraiment un peu des mises en situation comme ça désagréables. Alors, on reste soft, hein, mais pour pouvoir observer ces difficultés, parce que sinon, on voit rien.
Mm-hmm. Les proches, eux, le sentent plus facilement. Ils peuvent justement amener des éléments que eux observent et nous, on n'observerait pas.
Oui, alors c'est toujours hyper précieux quand on peut voir les parents. Ce n'est pas toujours le cas avec les personnes adultes. Et puis quand on a les conjoints, parce que forcément que le conjoint au quotidien, il va quand même voir la personne sans sa prothèse, sans son masque. Donc il va aussi pouvoir nous amener des éléments que nous, on ne va pas forcément pouvoir voir dans les entretiens.
Alors une fois que ce diagnostic est posé, qu'est-ce qui change, hein? Même question finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour aider, pour prendre soin?
Alors la première réaction c'est qu'effectivement il y a un sentiment de reconnaissance et de soulagement chez ces femmes qui se disent, pour le dire d'une façon un peu triviale, souvent elles nous disent « Ah je suis pas folle », c'est souvent ce qu'on entend. Et puis à partir de là, c'est d'accompagner en prenant conscience de ces fonctionnements, qu'est-ce qui fait partie des adaptations dont la personne a besoin, avec quoi on peut un peu transiger quand même, parce qu'on ne peut pas tout adapter dans le monde, hein, malheureusement, pour ces personnes. Donc après, c'est tout ce travail vraiment de bien comprendre son fonctionnement et puis ces fluctuations énergétiques. Parce qu'on a dit rapidement qu'on peut s'imaginer l'énergie que ça demande de mettre en place toutes ces stratégies de camouflage et puis d'apprendre aussi aux personnes à repérer
dans ma semaine, si j'ai un événement qui va me demander beaucoup, qu'est-ce que je peux me mettre après ou les jours d'après pour pouvoir me ressourcer puis de trouver une sorte d'équilibre.
Mmh. Oui. Nous sommes en compagnie de Laetitia Rottenbühler qui est psychologue et Diane Clénin qui nous apporte son témoignage aujourd'hui. Et puis on va écouter un deuxième son, Alexandra Richard.
Oui, c'est celui d'une fille avec une maman Asperger. La question qui lui est posée, c'est est-ce que tu vois une différence entre ta maman et les autres ?
Moi, je répondrais non. Parce que d'un côté, dans le privé, on est tous un peu plus foufou, on est tous un peu différents. Et quand je vois les mamans de mes copines comme ça, oui, elles sont moins fofolles que ma maman comme je la connais, mais je les connais pas dans le privé non plus, donc je ne peux pas savoir. Après, je sais pas si c'est des traits autistiques ou pas, parce que ma maman, elle est un peu folle, mais des fois, elle fait des trucs, tu te demandes pourquoi. Enfin, elle crie ou bien elle rigole ou bien elle fait des blagues, on comprend pas forcément. Mais je pense que c'est aussi un trait de sa personnalité, c'est pas forcément en lien avec l'autisme. Pour le fait qu'elle se soit fait diagnostiquer autiste Asperger, je suis contente pour elle parce que pendant longtemps, elle se sentait pas forcément bien, en tout cas dans la société. Elle se sentait différente, mais à se sentir mal. Et je pense que ça lui donne aussi une raison de pourquoi elle est différente. Et je suis contente parce que je la vois plus assumée telle qu'elle est.
Oui, un témoignage tendre et sincère. Hein. Ma maman est un peu fofolle. Pouvoir poser des mots sur ses troubles sans filtre, c'est quelque chose qui est important aussi.
Oui, Laetitia. Pour moi, clairement, sinon je ne ferais pas ce travail. Mmh. Oui, ça me semble hyper important pour que les personnes puissent vraiment se comprendre et puis aussi faire comprendre aux autres, à l'entourage, que non, si je ne viens pas à la soirée de famille de Noël où il y a 50 personnes, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que pour moi c'est trop. Et puis de pouvoir vraiment, après, s'adapter mieux à son quotidien pour qu'il y ait moins de souffrance. Il y a beaucoup d'anxiété aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a beaucoup d'anxiété qui est associée au fait de devoir masquer tout le temps, de devoir être toujours dans la compensation. Donc le but, c'est quand même de pouvoir faire diminuer les problématiques associées aussi.
Diane Clénin, je voyais rire, voire sourire, quand on entendait la jeune femme, la fille qui parlait de sa maman en disant « elle est un peu folle, ma maman ». Ça, c'est une inquiétude que vous aviez, vous, de se voir estampillée folle de l'extérieur ?
Oui, bien sûr, mais j'ai toujours été hyper excentrique, donc je crois qu'en fait...
Ça va ?
Ça va, ouais.
D'accord.
J'ai toujours été hyper ouverte avec mon entourage, justement avec ce processus. Et puis en fait, ce qui a été rigolo, c'est que finalement, autour de moi, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah tiens, peut-être que moi aussi
ah. !»
Qui ont reconnu des traits en fait. Et puis je pense qu'effectivement, toutes les relations proches que j'ai pu former dans ma vie, c'était des gens un peu comme moi, qui étaient un peu foufou. Et puis tant mieux en fait, enfin... On se cherchait en tant que créatif, artiste, un peu peut-être marginaux, parce que on était mieux ensemble. Mmh. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont reconnus, en fait, quelques traits là-dedans.
Et du coup, ça crée des liens un peu particuliers, quoi.
Non. Non, pas spécialement. C'est juste qu'on en parle hyper ouvertement, c'est tout.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir là en direct, Diane Clénin. Et puis merci à vous, Laetitia Rottenbühler. Je rappelle que vous êtes psychologue au centre Enikos à Neuchâtel. Merci beaucoup à toutes les deux et bonne journée.
Merci.
Merci Alexandra.
CQFD à 10h sur la première.